Bonjour à tous et bienvenue à ce 148e épisode du Bulletin GP. Évidemment, comme vous le constatez, je ne suis pas Abdou Sal, mais bien Marc-André Fortin, collaborateur habituel au Bulletin GP. Je remplace cette semaine Abdou, qui a un petit souci de voix qui l'empêche de pouvoir animer aujourd'hui. Il est par contre présent en tant que metteur en onde. Il sera de retour à l'épisode numéro 149, en fait, l'après-course de Singapour dimanche. Et puis, ce sera son dernier bulletin GP avant son départ vers le Sénégal. On a une émission assez chargée, disons. On va terminer cet épisode en parlant du GP Explorer 2, qui est une compétition de 24 pilotes, de YouTubers et d'artistes organisée par Squeezie. Donc, on va pouvoir maintenant se tourner vers mon invité du jour, Anna Maria Mercato Lopez. Comment tu vas, Anna Maria?
Ça va très bien.
Génial. Moi aussi, je vais très bien. On s'approche de mon Grand Prix favori au Singapour sous les lumières et la noirceur. Donc, j'ai très hâte de m'aventurer en fin de semaine vers cette écoute. Mais sinon, on va se tourner tout de suite, si tu le veux bien, Anna Maria, vers un sujet qui est assez sensible, quand même, disons, important de discuter. On se rappellera, la semaine dernière, Helmut Marko, disons, a été critique envers Sergio Pérez et il aurait, en fait, vraiment dépassé la limite en allant de propos là, racistes envers son pilote mexicain. Je vais, avant de t'introduire et de te laisser répondre à ma question, je vais vous citer ce que Helmut Marko a dit lors d'une entrevue télévisée. Donc, je vais commencer la citation. Là, nous savons qu'il, en parlant de Sergio Pérez, a des problèmes en qualification. Il fluctue, il est sud-américain. Et dans sa tête, il n'est tout simplement pas aussi pleinement concentré que l'était Max, en parlant de Max Verstappen, et Sebastian Vettel. Anna Maria, quelle a été ta première réaction face à cette déclaration? Parce que comme plusieurs internautes depuis le début de la semaine et depuis la semaine dernière le mentionnent, il ne s'est pas seulement attaqué à son pilote en ayant ces propos-là, mais également à toute une nation, autant la nation mexicaine que tous les habitants de l'Amérique du Sud.
Mais regarde, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de réactions, donc on réagit parce que, tu sais, je viens de Sud-Amérique aussi. Mais c'est de propos, ben, on a l'habitude de dire que Helmut Marko est très cru, des fois, je pense qu'il ne pense pas trop ce qu'il va dire avant de parler, parce que la première chose, c'est que Checo n'est pas sud-américain. C'est ça, notre première réaction, c'était ça, c'est de faire la blague. Ok, Marko, il faut repasser un peu de géographie parce que, regarde, le Canada, ce n'est pas les États-Unis et Sud-Amérique, ce n'est pas. Et Checo n'est pas sud-américain parce que, donc, Mexique n'est pas sud-américain. Il est latino-américain parce qu'il parle notre langue en espagnol aussi, mais c'est de, je pense que dans la Formule 1, des fois, oui, il faut parler clair, mais il faut aussi réfléchir un petit peu avant de parler. Parce que, comme tu l'as dit, il a touché, il a mis comme tout le monde dans le même sac, et ce n'était pas la forme de s'exprimer, parce que oui, on connaît les latinos, on est différent, on est plus émotif, on est plus explosif, on est plus énergique que, supposons, le monde qui est un peu anglo-allemand, mais c'est pas la façon que Marko a utilisé pour dire que Sergio Pérez est plus concentré parce que lui est sud-américain. C'est quoi ça?
Mais exactement.
Parce que, regarde,
merci d'avoir fait la rectification. Pardon. Merci d'avoir fait la rectification. J'allais justement, c'était l'un de mes points de vue quant à la déclaration que j'avais lue en début de semaine dernière. Et puis, On se rappellera également que la semaine dernière, le Grand Prix de Mexico avait également fait une sortie contre pour, disons, même soutenir Pérez et avait vivement condamné les commentaires inappropriés de Marco. Évidemment, moi, mon point de vue dans tout ça, c'est Helmut Marco parle beaucoup trop et souvent trop vite. C'est un point de vue qu'on lui reproche souvent. Tu sais, le mot polémique est tellement accroché tout le temps à Helmut Marco. Ça lui pend sur lui. Dès qu'on parle d'Helmut Marco, souvent, on va parler d'une polémique, que ce soit envers certains pilotes. Puis, tu sais, je pense que il devrait se retenir, je pense, de faire des sorties publiques comme ça. Souvent, les journalistes, ils le savent. S'ils vont voir Helmut Marco, il va avoir quelque chose de bon qui va sortir pour, disons, donner une controverse ou juste pour même expliquer une situation à l'occasion. Puis, d'ailleurs, on se rappellera également qu'Helmut Marco a fait des excuses et a rectifié son information, disant que ce n'est évidemment pas ce qu'il voulait dire, que Sergio Pérez avait une mentalité différente que celle d'un Allemand ou d'un Irlandais. Mais je vais le citer, là, mais qui sait, peut-être que c'est contrôlé. Donc, j'espère que ces excuses-là, d'ailleurs, sont sincères également. Je pense que Helmut Marko devrait justement, dans les prochains jours, là, se retenir un peu de faire des sorties publiques comme ça. Et puis, Anna-Maria, je te lancerai également. Qu'est-ce que tu penses? Bon, on a parlé de la saison de Pérez. Est-ce que tu crois que ces dernières déclarations d'Helmut Marko pourraient chicoter Pérez et même pourrait rendre la relation entre Red Bull et lui plus tendue?
Eh bien, mais de ce côté, c'est pour ça que j'avais dit avant que des fois, on dirait que Helmut Marko ne réfléchit pas trop quand il sort un commentaire. Parce que j'ai même écouté, j'ai vu toute l'interview au complet. Il fait de plein compliments à Pérez. Il même dit qu'il a fait un bel cours, qu'il était super bien, que des fois ça va pas, qu'il n'est pas capable de contrôler la voiture, mais des fois elle est là. Et c'est là que j'avais pas trop compris parce que j'ai dit, mais regarde, parce qu'il n'a pas fait de mauvais commentaires et lui, il s'est pas attaqué à Pérez, il n'a pas trop critiqué la session, il a juste dit que à côté de lui, il y a un Max Verstappen qui est trop fort, et c'est ça qui fait que lui apparaît un peu mal dans tout ça. Mais, c'est que tout ce qu'il avait dit avant, personne l'a repris. Parce qu'en fait, c'est juste un petit commentaire qui est passé, qui fait qu'il a explosé et que, ouais, encore on parle de ça, mais je pense pas que son commentaire, il a fait exprès pour faire abîmer la relation avec Checo. Au contraire, parce que lui, il était en défense de Checo et de sa session. C'est là que j'ai pas trop compris, ça se peut pas qu'il a dit ça juste por abrirme la relación. Se juzga que ya, y reflexiva. On dice que on pense avant de parler, on diré que Marco y fue al contrario, y parle, y après, si après qui va a pensar. O sea, que yo dije, oui, ya parlé de lui, ya parlé aussi de Norris, que oui, y avait des conversations, était intéressé, il avait rien à faire parce que lui, pour 2024, est avec McLaren. Il a même fait la comparaison parce qu'il le pose la question. Norris et Checo, lui, disait, là, il parlait très bien. Il disait, mais parce que Checo, il a plus d'expérience, il a beaucoup d'années en Formule 1, maintenant, il s'occupe beaucoup plus de la famille, il y a maintenant 3 enfants, je pense, déjà. Et c'est ouais. Ça, c'est pas la même chose que Norris qui est plus jeune et il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'enfant. Et ça, c'est vrai parce que le monde dit, le pilote dit que quand tu as un enfant, tu perds de la vitesse dans la voiture. Et je ne sais pas si ça. Oui?
Est-ce que tu estimes que Perez a toujours sa place chez Red Bull l'an prochain ou au-delà de 2024?
Je sais pas, l'année prochaine, ça se peut que oui, qu'il a encore sa place chez Red Bull, mais plus loin de 2024, je pense pas. Je pense pas parce que avant Red Bull, quand il est allé chercher Checo, il y avait personne. Il y avait pas la relève. Mais entre-temps, il s'est fait un peu la relève. Il va avoir des pilotes aussi disponibles pour 2025 déjà. Ricciardo, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va donner, mais il y a déjà avec Red Bull, à Alfa Tauri, il y a aussi Liam, c'est lui qui a remplacé à Ricciardo.
Comment?
Liam Lawson.
Oui, Liam Lawson, oui.
Liam Lawson qui
est un pilote Red Bull, un jeune pilote, mais qui pousse, disons, dans les dernières années pour entrer en Formule 1. Et d'ailleurs, ses premières impressions en Formule 1 ont assez bien fait, justement avec ses performances. Puis on se rappellera également qu'il n'y a pas juste Liam Lawson, mais si on recule un peu, Iwasa qui pousse énormément. Il y a même Hodger qui vient tout juste d'entrer dans sa première saison de F2. Donc, on est bien loin. Mais effectivement, je pense qu'actuellement, Perez était dans une situation où il était un peu le remplaçant parce qu'il y avait un peu personne qui pouvait le faire. En même temps, il venait de sortir d'une excellente saison avec son ancienne écurie. Je pense que quand Red Bull l'ont signé, l'intérêt était vraiment marqué. Et je pense également que quand ils sont allés le chercher, ils pensaient réellement que Sergio Perez allait pouvoir gagner un championnat du monde avec cette voiture. On connaît la suite de l'histoire. Verstappen est tout simplement extraordinaire dans cette Red Bull. Même si on reprend les mots de Toto Wolff qui affirme que la voiture de Verstappen a été complètement créée à partir de la conduite de Max, qui a été réfutée là, complètement par Christian Horner, qui est le directeur de course de l'écurie, Red Bull. Mais je pense que j'ai l'impression que la relation dans les dernières années s'est un peu effritée entre Perez et Red Bull. Mais je pense également que c'est dans le naturel des choses. Pourquoi Verstappen est tout simplement dominant? Et je pense qu'il faut avoir un caractère très grand pour pouvoir supporter de se faire battre à plat de couture par son coéquipier. J'estime pas que Perez a une si mauvaise saison que ça. C'est sûr que c'est pas flatteur quand tu vois qu'il a fini à plusieurs reprises hors du podium avec cette Red Bull. Si je ressors quelques statistiques, là, on parle au Canada, on se rappellera de sa 6e position. Tout ça avait commencé là, quand on recule là, même en Australie, 5e position, une 16e position à Monaco. Il y a plusieurs courses qui ont eu, disons, de la malchance chez Perez quand même dans tout ça. Mais quand on regarde sa saison au prorata, j'ai l'impression qu'il va être sacrifié dans les prochaines années. Est-ce que ce sera l'an prochain? Est-ce que ce sera en 2025? J'ai plus l'impression que ça va être en 2025, mais j'ai également l'impression que Perez, un changement d'air pourrait lui faire du bien. Encore là, est-ce qu'il y a de la place pour un Perez dans la grille actuelle? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Donc, j'ai très hâte de pouvoir voir s'il y a une place. Et puis, également, Abdou nous rappelle sur notre petit fil de discussion de groupe que ce n'est pas la première fois que Marco émet des commentaires là, un peu disgracieux, disons, là, envers Perez. Il nous donne l'exemple de l'histoire du missile en Arabie Saoudite, je vous rappelle, il y a 2 ans déjà, si ma mémoire est bonne, où Marco avait dit qu'à Mexico, il y en avait beaucoup et qu'il devait nécessairement être habitué d'être dans cette situation-là en parlant de Perez. Donc, voyez, je pense que Helmut Marco parle beaucoup. Est-ce que fondamentalement, il est mal. Bon, c'est pas à nous de le déterminer réellement, mais J'espère juste qu'Helmut Marko va commencer à se tourner la langue au moins 7 fois avant de parler. Il représente quand même une entreprise, il représente une écurie qui va être triple championne depuis 3 ans. Désolé, ce n'est pas encore fait. On viendra là, peut-être sur les statistiques là, sur quand Max Verstappen et l'écurie pourraient devenir champions prochainement, là, plus loin dans l'épisode. Mais si je reviens à la situation, Anna Maria, est-ce que tu as l'impression que Perez est allé dans le bureau d'Helmut Marko pour lui parler ou bien tu penses qu'il s'est gardé une gêne?
Non, je pense pas. Si ça serait Fernando, je te dirais qu'il y a eu de la chicane déjà, mais Perez, non, non. Perez, il va peut-être parler à la presse si se fait poser des questions parce qu'il n'y a eu aucune réaction de sa part. Il n'y a pas émis aucun communiqué, rien, il a laissé comme ça. Je dis, peut-être il va parler si les journalistes sont autorisés à poser des questions, parce que ça aussi, ça existe, des questions qu'il ne faut pas se poser. Mais je dis, peut-être ouvert s'il sait qu'il peut le faire. Il n'y a pas, comme tu dis, c'est pas un danger. Quand il savait qu'il sortait de Aston Martin, de Racing Point, là, on était en interview avec lui, il parlait ouvertement. Peu importe qu'est-ce qu'on pose des questions. Mais si son contrat est en danger, s'il voit que ça peut le nuire, il va rien dire. Juste, il va rien dire. Il va même pas poser de questions à l'équipe.
Est-ce que tu as l'impression, parce que moi, quand je regarde la situation de Perez, je me dis, en ce moment, j'ai l'impression que Perez est un peu dans la même situation qu'un Valtteri Bottas à l'époque quand il était avec Hamilton. Il était constamment sur la pression de devoir renouveler son contrat, de devoir prouver quelque chose. Est-ce que le manque de constance pourrait provenir de ça ou tout simplement, c'est dans la tête de Perez en ce moment qu'il y a un souci, manque de confiance, manque de...
Je pense pas que Perez a perdu son talent ni sa vitesse. Je dirais plus qu'il a perdu le goût parce que lui est arrivé à Miami. Lui, il pensait qu'il pouvait se battre. Miami, je dis, après ça, on ne pas. Je pense pas que c'est la mauvaise chance. C'est que dans sa tête, le problème de Perez. Ben, il faut comprendre que Red Bull est allé chercher un deuxième pilote. Ça, on l'a fait d'être son premier pilote. Mais je pense que Red Bull est allé chercher un pilote pour aider, pour être proche de Max, pour l'utiliser comme Mercedes y avait Bottas. Quand Hamilton n'était pas là, Bottas y était là. Mais quand Hamilton était là, Bottas y était là pour faire son deuxième pilote, il était utilisé pour protéger la position, pour faire des stratégies. Et ça, Red Bull n'est pas capable de le faire avec Perez. Et je pense que Perez, dans sa tête, elle dit oui, il a signé un contrat, mais à la fin, lui croyait que dans la piste, il pouvait être mieux que Max. Et je pense que face à la réalité, elle lui a dit, ben, si je ne peux pas gagner le championnat, comme que ce n'est pas le même intérêt. Parce que tu vois, quand Max Verstappen n'est pas là parce qu'il a passé quelque chose, lui est capable d'aller chercher la victoire. Mais sinon, si Max est là, on dirait qu'il n'y a pas le même goût. Et je pense que c'est le gros erreur qu'a fait Checo parce que en pensant qu'il pouvait battre à Max, à la place de se concentrer en lui-même, il a perdu plus qu'il gagnait. Parce que Gasly a fait le même erreur, il a tout fait quoi? La moitié de la session. Parce que lui, il pensait aussi qu'il pouvait battre Max, et après il est retourné à Alpha Tauri, et tout allait très bien. Que je pense que Checo, c'est l'effet de savoir que lui, il ne peut pas y aller chercher le championnat, ça le tue pour la saison au complet.
Il faut rappeler également, là, parce que là, on parlerait, on parle de peut-être le départ de Sergio Pérez en 2024, mais il faut se rappeler qu'il y a un contrat jusqu'à la fin de la saison 2024. Donc, techniquement, toujours sous contrat l'an prochain avec Red Bull. Puis aujourd'hui, je me suis amusé. Je suis allé chercher des vieux archives lorsque Pérez avait signé son contrat avec Red Bull. Et j'ai trouvé un commentaire qui est venu m'interpeller de Christian Horner. Je vais vous le lire. Je le cite. Il a prouvé à maintes reprises qu'il n'était pas seulement un excellent joueur d'équipe, mais que son niveau de confort augmentait et qu'il était devenu une véritable force avec laquelle il fallait compter à l'avant de la grille. Ce sont des commentaires qui ont été faits là, dans le coin de la fin mai, là, lorsqu'il a signé son contrat, après une victoire miraculeuse à Monaco. Moi, je me suis posé la question aujourd'hui, là, qu'est-ce qui fait en sorte que le niveau de confort de Sergio Pérez entre l'an dernier, même si c'était pas une saison parfaite pour Sergio Pérez, je sentais que c'était complètement un pilote différent. Est-ce que c'est dans les réglages qu'il a de la difficulté avec cette nouvelle mouture ou tout simplement, encore je reviens sur son niveau, est-ce que tu penses également qu'il va être capable de se relever d'une saison comme ça et regarder en face l'an prochain et se dire, OK, dès la première course à Bahreïn, moi, j'ai confiance, je peux battre Max Verstappen. Est-ce que tu y crois encore, ça?
Ben, je pense que lui, il a la confiance. Le problème, c'est que comment tu peux battre Max Verstappen? C'est ça le problème. Il est plus fort mentalement, il est plus dur. Je pense que avant, il pouvait le battre, peut-être, il y avait une très belle relation entre les deux. On le voyait les deux toujours bien, toujours souriant. Max, il était toujours à côté de Checo, de son papa, mais ça doit toucher je pense que le point d'inflexion, c'est Monaco. Je pense que l'effet, Monaco, la qualif à Monaco, c'est là que la relation, je dirais pas la relation avec l'équipe, mais c'est là que la relation avec Max il s'était cassée. Et c'est là que je me rappelle un peu comme c'est passé avec Vettel et Weber à Brésil, que juste la course après, il a perdu le multi 21. C'est des petites choses comme ça, que des pilotes comme Max, je pense qu'ils ne sont pas capables d'oublier. Je pense que c'est là que, quand il est venu, le moment de dire, est-ce que tout le serait passé, Checo, lui, a dit, il doit me dépasser un peu.
Parce que moi, ce qui m'inquiète à l'approche de la prochaine saison, dans le cas de Pérez, s'il reste avec Red Bull, c'est justement, j'ai l'impression que cette année, il est arrivé avec une énergie de conquérant qui me semblait un peu de la dernière chance. Mais là, il reste encore un an à son contrat. J'ai l'impression qu'à la fin de l'année, je le sens un peu essoufflé de pouvoir battre Max. J'ai l'impression que j'ai hâte de voir dans quelle énergie même il va arriver l'an prochain. C'est un peu mon inquiétude dans le cas de Pérez. Est-ce que mentalement aussi, c'est une situation favorable pour lui? C'est l'un de mes questionnements dans le cas de Pérez. Et si je reviens là à Helmut Marko, est-ce que tu crois que c'est le temps que Helmut Marko laisse sa place? Est-ce que tu crois qu'une bavure comme ça devrait lui montrer la porte de sortie?
Oui, je pense que qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe, c'est pas juste les commentaires. Qu'il laisse la place, peut-être qu'il laisse l'avant-scène pour d'autres personnes qui s'occupent, mais je pense que tout ce qu'il a construit, Marko, dans l'équipe, il a démontré jusqu'à maintenant qu'il a fait quelque chose qui marche. Oui, il fait ses commentaires, il a pas la place à ses commentaires, on ne tolère pas, mais de ça à dire, il faut qu'il s'en aille. Je pense que c'est pas pareil. Parce que, on se rappelle de Bernie aussi avec ses commentaires controversés et il n'y a pas parti jusqu'à que la Formule 1 était Il était laissé à liberté.
Mm-hmm.
Mais des personnes comme ça, je pense que Helmut, c'est le seul qu'il reste des vieux messieurs de la Formule 1 qui encore même s'ils font des commentaires disgracieux, c'est des mondes qui donnent encore un peu de... Comment je pourrais dire? Un peu de ce qu'il y avait avant dans la Formule 1, de ce que tout le monde réclame maintenant et qui dit que non, la Formule 1, c'est pas comme avant. Mais peut-être Red Bull, il doit aller couper le micro, c'est ça. Parce qu'ils font exprès ce commentaire, il l'a fait dans son propre canal de Red Bull.
Exact.
Je dis, pourquoi l'envoyer à l'avance si tu sais que ça se peut mal tourner?
Pour une entreprise comme Red Bull qui veut justement protéger sa réputation et tout ça, c'est vrai que personnellement, moi, j'essaierais que Helmut Marko parle de moins en moins. Mais tu sais, en même temps, je pense que Helmut Marko, c'est un peu un bibelot de la Formule 1. Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Je pense qu'il vient avec un niveau de réputation. Il vient avec un... Souvent, on se dit, OK, ben peut-être que c'est le temps de laisser la place à d'autres. Hein? Puis, écoute, c'est pas la première fois non plus, comme on a dit, qu'Helmut Marko se retrouve dans des bavures comme ça. Il faut se rappeler également qu'il est extrêmement, extrêmement pointilleux. On a eu beaucoup, beaucoup de retours sur de commentaires qu'il disait sur les jeunes pilotes, sur la pression qu'il mettait sur les jeunes pilotes. Même, on lui reproche à l'occasion même d'être à l'origine de tous les changements au sein de Red Bull lorsqu'il vient le moment de faire un changement de pilote. On dit que ça vient souvent d'un peu d'Helmut Marko. Donc, il est encore extrêmement... Et c'est un consultant, il faut le rappeler. Là.
Non, c'est ça. J'allais te dire la même chose, qu'il ne faut pas oublier que Red Bull, que Marko, ce n'est pas un employé de Red Bull, il est juste un consultant.
C'est un consultant responsable du programme de détection de pilotes en place là, par Red Bull Racing. Et puis, moi, je me demande à quand la retraite d'Helmut Marko, premièrement, on se rappelle qu'il y a 80 ans quand même, et loin de là de moi de vouloir faire de l'âgisme, mais évidemment, il viendra un temps où Helmut Marko va mettre sa carrière de côté et penser à sa retraite. Et je pense que ce moment-là, ben évidemment, il va recevoir beaucoup d'éloges par tout le monde de la Formule 1 parce qu'il a construit quand même quelque chose avec Red Bull. Il fait partie du succès de Red Bull, évidemment, mais il ne faudra pas oublier. C'est très important, toutes les bavures et les commentaires qu'Helmut Marko a déjà dit, parce que ça reste que les écrits, comme on dit, les écrits restent, ben il va falloir qu'ils restent parce que ça fait partie du personnage, disons, d'Helmut Marko. Mais la retraite viendra, mais il va falloir s'en souvenir. Maintenant, si tu le veux bien, Anna Maria, je me tournerai vers un sujet un petit peu plus léger, mais en même temps... Il y a eu des bavures dans le GP Explorer, une compétition qui en est à sa deuxième année. Je vous résume un peu. 24 pilotes, des YouTubers, des artistes, des influenceurs d'Europe. Plus de 1,3 million de vues cette année, qui est un record. Et tout ça sur Twitch. Le grand gagnant a été Dupiello, qui est un YouTuber sous le nom de Pierre-Olivier Valette, qui coursait pour RAC, qui est propulsé là, par Alpine. Écoute, le pilote a dominé complètement la journée, autant les essais libres que la qualification. Il a devancé Sylvain Lévy et Étienne Jouneau. Il faut se rappeler que l'an dernier, Dipiello avait fait une excellente performance en terminant deuxième. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter le GP Explorer, Anna-Maria?
J'ai plutôt suivi un peu les commentaires. J'ai pas eu comme le temps à la rentrée de l'école et tout ça, pas eu le temps de coller pour voir qu'est-ce que la course a dû y se battre parce que tu es capable de parler un petit peu à deux.
On lui coupe le micro aujourd'hui. Mais écoute, moi, je prends mon mea culpa. Je ne l'ai pas écouté. J'ai vu plusieurs vidéos des faits saillants de la course. Mais moi, ce que j'en revenais pas, c'est que, tu sais, je me suis jamais eu d'intérêt nécessairement par cette compétition-là. Je respecte énormément qu'elle existe. Même, je trouve que c'est le fun parce que je crois pertinemment que certaines personnes qui n'ont jamais écouté la course automobile écoutent cet événement-là et ça leur rapproche le plus avec la Formule 1, c'est ça. Ce qui leur rapproche le plus de la Formule 1, c'est cette compétition-là. Enfin, ça, je respecte ça énormément. Mais où là je veux en venir, c'est que mon algorithme Twitter n'est pas supposé d'être fixé sur cet événement-là. Et je vous jure, toute la fin de semaine, je n'ai vu que des tweets ou des X, mettons, à propos du GP Explorer. Donc, ça veut vraiment dire que ça a été un succès formidable pour cet événement-là. Et évidemment, tout événement comme ça vient jamais loin, vient jamais sans une petite...
Marc-André, je voudrais faire un petit point avant de continuer, parce que je sais le sujet qui s'en vient. Mais je veux juste dire que le JP Explorer qui est apparu l'année passée, ouais, ça vient aussi après, tu sais, dans Espagne, dans Madrid, ils ont fait les JP Tweet. Ça a commencé comme une espèce de blague. Il y a un garçon qui gère un quartier. Il a dit, ben, on se met avec des mondes qui sont en Twitch, qui ont suivi la course et tout. On se met ensemble, on va faire la course et on fait la course, mais en quartier. Et ça se retrouvé tout un exit, l'extrême et tout, même qu'ils sont allés nominer pour les meilleurs extrêmes de l'année, parce que dès que tout a commencé et on fait des pratiques et tout, les jours de la course, il y a même Dani Giucadella qui s'est présenté à courir avec eux, ils sont retrouvés à des vrais pilotes qui se sont joints et jouent pour équipe. Et ça, je trouve que ça c'est bien parce que des fois on suit la course et on connaît pas vraiment tout le monde et ça attire les gens, ça sort des mains. Cette année ils vont le faire encore, il est pas fait, mais c'est pour ça que j'écoutais beaucoup parler parce que en voyant ce qui s'est passé en France, il aussi était fier, il s'est fait, on a commencé en premier, puis une autre copie. Parce que c'est comme ça qu'il arrivait dans mon tweet, tous les commentaires par rapport à JP Explore.
Et allons tout de suite dans le vif du sujet, parce que cet événement a quand même été noirci par une panoplie de commentaires haineux, sexistes. Et parce que je vais vous expliquer un petit peu la situation. Il y a eu un accident, je crois, au sixième tour, si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne, qui a créé le véritable dérapage sur les réseaux sociaux. En fait, c'est Manon Lanza qui a été victime, qui est une influenceuse, qui a été victime d'un accident avec deux autres pilotes. Elle a dû même aller à l'hôpital, plus peur que de mal, par chance, elle va bien. Mais rapidement, les messages de soutien ont tout de suite été inondés là, par des propos sexistes et haineux envers la pilote influenceuse, disons-le. Mais quelle a été ta réaction, Anna-Maria, quand tu as vu ces panoplies de commentaires haineux? Parce que même moi, comme je l'ai dit, j'ai vu passer beaucoup, beaucoup de commentaires et je ne suis même pas abonné à aucun média social ou rien du GP Explorer. Quelle a été ta première réaction face à ces commentaires que Manon Lanza a reçus? Là?
Non, c'est ça que j'étais surprise parce que j'ai dit, mais regarde, on vient de parler, on parle pendant presque une semaine de propos de Marco. Et maintenant, c'est pas Marco qui fait les commentaires, mais je dirais, il y a plein de monde dans les réseaux sociaux qui ont dit ces commentaires n'ont pas la place dans le sport. Et dans un événement, pour promotionner le sport, c'est ce qui arrive. Je dis, ben, c'est pas bon ça. On n'est pas dans les années 80. Qu'est-ce qu'ils sont? Maintenant, on parle de l'inclusion, on parle de tout ça. En plus, c'est même pas un pilote. On est clair que c'est des influenceurs, c'est pas des pilotes qui font la course. Pourquoi? Juste parce que c'est une femme qui a pris la sortie de piste qu'il a fait. Mais j'ai surtout focusé sur un commentaire qui m'a fait des souvenirs de 2012, je pense. Parce que elle a dit, Manon, après que, parce qu'il n'avait pas parlé, elle a dit, si ça serait Hamilton, je ne me serais pas envoyé à la cuisine.
Mm-hmm. Ouais.
Et ça m'a touché parce que c'est mes souvenirs que Checo avait fait la même blague avec Susie Wolf. Quand il a demandé si, qu'est-ce qu'il pensait d'un fan en Formule 1, lui, il a dit, mais oui, mais c'est bon pour les fans. Et ils l'ont demandé, qu'est-ce que tu as marre ça pour la compétition avec. Et Checo a dit, non, franchement, Je voudrais pas que une femme me dépasse en course. Il a dit, ça, comme en blague, en riant, non, les fans, la place des fans est à la cuisine. Et là, ça m'a touché beaucoup dans le temps où on a commencé, on essayait de dire que le sport est fait pour tout le monde. Et j'ai dit, franchement, après, des années qui ont passé d'évolution, je pense, dans le sport, on revient à la même chose. Et maintenant, je fais, pour tout ce qui nous écoute, je dirais que quand il passe quelque chose, avec un pilote, je dis, les commentaires n'ont pas la place, mais ce n'est pas juste les commentaires de Marco ou les commentaires de Checo. O le comentario de Monsieur Eccleston, que ha dicho sí que no le fan y que cortan su categoría para, porque no, el sapo pase melange, son pasivos por ocurrir a veces, ¿no? Le comentario que on met nous sur les réseaux sociaux, ça compte aussi. C'est pas juste que je vais sortir a dire, oui, el mundo marcó, c'est pas la place de dire ce comentario, y après, ah, moi, je peux le dire parce que moi, je ne suis pas Marco. Et non, non, non. On est tous dans le même bateau.
C'est très vrai.
C'est pas parce que tu n'es pas Hamilton ou tu n'es pas Marco, tu peux dire n'importe quoi. Parce que la personne touchée, ça le fait la même. Ça fait le même dommage. Ça soit Marco ou soit quelqu'un qui écrit dans les réseaux sociaux. Ah non, mais parce que. Ton opinion, ça compte pas, tu es une fan, les fans, la voiture, non, ça c'est...
Il faut dire aussi que c'était tellement intense dans le direct, parce que sur Twitch, les gens peuvent commenter, c'était tellement intense que l'équipe de Squeezie a même décidé de complètement barrer les commentaires, donc plus personne ne pouvait commenter. Ça en est été aussi loin. Puis en réaction à tout ça, Manon Lanza a même dit, ben écoute, tu sais, j'étais allé à l'hôpital, j'ai eu un choc thoracique, une hernie cervicale. Elle a mentionné que le choc avait tellement été violent que tous ses muscles avaient été contractés. Et tout ça, ben, les gens en ont profité pour lui mettre tout sur le dos. Et il faut dire que c'est quand même juste, c'est même pas une compétition réelle, c'est tout simplement un événement qui rassemble des YouTubers, c'est supposément un événement joyeux et on ne devrait pas aller aussi loin, surtout que je trouve que ça, encore là, des commentaires comme ça, ça revient à dire que il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on doit encore travailler en tant que société, sur le respect mutuel de tout le monde, surtout avec les réseaux sociaux. Moi, j'ai très hâte qu'il y ait un meilleur contrôle des réseaux sociaux. Parce que c'est complètement inacceptable avec lequel on a eu comme comme image aujourd'hui et même la semaine dernière lorsque cette situation-là est arrivée. Et moi, c'est ce qui m'enrage, c'est qu'on se serve là, d'une erreur aussi banale qu'un accident en course pour justement avoir des propos sexistes et tout ça. Je trouve ça vraiment là, inacceptable. Et c'était un peu le point de vue de Manon Lanza lorsqu'elle a commenté la situation dans plusieurs médias français aujourd'hui. Il y avait des commentaires même qui allaient très loin, des menaces de mort, tout ça pour un simple, banal accident dans une compétition qui est supposément un divertissement. Tu sais, c'est ça qui m'enrage le plus. Donc, il y avait plusieurs internautes qui disaient même, tu sais, j'espère que Squeezie ne fera plus le GP Explorer. Même plusieurs internautes demandent là, de ne plus la faire en raison de ce dérapage parce que effectivement, 1,3 millions de personnes ont vu ces commentaires. Et tu sais, on n'a pas pu calculer le nombre de bons commentaires aussi parce que souvent, tu sais, on se souvient qu'il y a souvent le 3% des commentaires qui est vu, mais je sais pertinemment, j'ai vu beaucoup de bons commentaires sur sur Manon Lanza. Donc, on lui souhaite évidemment là un très prompt rétablissement. Est-ce que tu crois que si jamais ça revient, tu vas t'intéresser un petit peu plus au GP Explorer, Anna-Maria?
Mais si ça revient, c'est sûr que je vais t'intéresser encore, regarder un peu qu'est-ce qui se passe. C'est intéressant quand même. Ils font la course, ils font la promotion de l'esport. C'est bon, mais j'espère que la prochaine fois, soit mieux encadré. Des fois, regarde qu'est-ce qui arrive. Des fois, dans mon podcast audio, je lève les commentaires. Juste, le monde n'a pas le droit de commenter. Parce que aussi, ça arrive que des fois, le monde qui commande, c'est pour faire des mauvais commentaires. Tu dis, c'est comme les donner la fenêtre pour que le monde les regarde. Et dit, si tu as fait de mauvais commentaires, ben, on bloque, c'est tout.
T'sais, moi, ce que je suis quand même assez content dans tout ça, c'est que Squeezie et son équipe ont quand même laissé une belle place aux femmes dans la compétition. L'an dernier, en 2022, c'était 3 femmes qui participaient à l'événement. Cette année, si mon compte est bon, c'est quand même 6 femmes qu'il y avait sur les 24. Même Abdou nous rappelle que Anastasia a fini à la position numéro 5 et que Katsoup, je ne sais pas si je le mentionne correctement, je doute fort, mais a terminé quand même en 10e position. Donc, 2 femmes qui terminent dans le top 10. L'an dernier, il me semble que Manon Lanza, qui avait participé à l'édition 2022, avait terminé 8e en partant 10e, si ma mémoire est bonne. Donc, tu sais, ça reste que les femmes ont très bien performé dans cette compétition. Et juste pour remettre ou également là, en remettre sur cette situation-là, Squeezie a mentionné là, que vous nous faites honte, vraiment. C'est comme ça qu'il a répondu à toute cette situation entourant les cyberharceleurs de Manon Lanza. Donc, moi, j'ai hâte de voir s'il va y avoir une 3e édition. Probablement que si l'intérêt est aussi grand, c'est parce qu'il y a vraiment un plaisir à le regarder. Donc, probablement que personnellement, s'il y a une 3e édition, je vais peut-être le regarder. Abdou nous mentionne également qu'il a regardé le GP Explorer. Il dit que c'est vraiment une 2e édition qui a été réussie. Chapeau à Squeezie d'avoir géré ça comme un pro. Les commentaires haineux et sexistes à l'endroit de Manon reflètent la société dans laquelle on vit malheureusement. Et effectivement, Abdou, je ne peux pas te donner plus raison. On est dans un moment où dans les médias sociaux, c'est tellement rapide. On peut se cacher derrière un simple utilisateur, un faux compte pour propager de la haine. Et puis, d'après Abdou, il faut qu'il y ait absolument plus de tours dans la compétition. La 3e édition.
Il faut qu'il y ait plus de tout et plus, et le monde doit être plus conscient que dans les milieux. Si tu n'es pas capable d'insulter quelqu'un en face de toi, fais-le pas dans les réseaux sociaux. Point.
Effectivement.
Ça se fait pas.
Et puis, tu sais, je pense que ce que je l'ai mentionné très, très rapidement là, en début de propos sur le GP Explorer, mais ce que j'aime, c'est que il y a beaucoup de personnes qui regardent pas la Formule 1 ou n'importe quelle compétition de course automobile, mais j'ai l'impression que dans ce 1,3 million-là, à la Marriott, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Hey, c'est bien cool, des courses comme ça de voitures, puis qu'est-ce qui existe à part ce que Squeezie fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses? » Puis probablement qu'ils vont tomber sur la Formule 1, là.
Mais oui, mais ça, je trouve que c'est bon parce que peut-être le monde qui est collé toujours à la machine à regarder des streams, ils vont dire OK, ben je vais regarder ça, je vais aller voir, on va lâcher un peu la machine. Ils vont découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le monde réel.
Et puis, là, je vais lire un autre commentaire d'Abdou qui, comment dire, comment mettre le feu aux poudres? Selon lui, le drapeau rouge dans ce Grand Prix aurait dû se produire le 12 décembre 2021. Bon. il garde le silence derrière son écran, mais tape sur son clavier. Mais en terminant, Anna Maria, quand tu regardes, est-ce que tu as eu la chance de regarder les faits saignants de ce Grand Prix?
Non.
Même pas? Moi, j'ai regardé.
J'ai regardé un peu les vidéos qui sont passées par là, mais pas, comme je te dis, je me suis pas concentré à faire la tâche.
En terminant, moi, j'ai regardé les faits saignants, puis honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Je pense que le spectacle était quand même très bon pour des personnes qui ne sont pas des professionnels dans l'ordre de la course automobile. Il faut dire également qu'ils conduisent des Formule 4, ce qui n'est pas des petits bolides quand même. Là. Un bon moteur, une voiture assez large. Donc, visiblement, ces pilotes ont pu, ces pilotes artistes, influenceurs, youtubeurs, je vous le rappelle, ont pu faire un très bon spectacle en fin de semaine. Et ça nous rappelle que la Formule 1 revient. On parle du Grand Prix de Singapour, je l'ai dit en ouverture, mais c'est l'un de mes préférés. C'est peut-être en raison de la domination de Red Bull dans les dernières années dans ce Grand Prix, alors que Mercedes faisait le beau temps. Mais Red Bull réussissait toujours aller chercher une victoire ou du moins de bien performer à Singapour. Donc, c'est probablement un Grand Prix que j'aime pour cette raison. Mais quand je regarde le potentiel de cette course, je suis en train de me dire que peut-être que Max Verstappen et Red Bull pourront avoir une saison parfaite. Ça a été même avancé par Christian Horner en disant et hey, c'est peut-être un de nos objectifs. Là, on peut tranquillement se tourner vers un objectif de saison parfaite dans le cas de Red Bull, ce qui serait quand même un exploit. C'est du jamais vu en Formule 1, un tel exploit. Donc, on souhaite ou pas une saison parfaite pour Red Bull et Max Verstappen. Je vous rappelle, je vais juste retourner sur mon écran, je vous rappelle que la qualification débute à 9h ici au Québec pour le Grand Prix de Singapour. La course aura lieu à 8h. Et puis, ne manquez pas notre édition de l'après-course de Singapour qui sera animée par votre cher Abdou Sal qui, je pense, a très hâte de pouvoir parler beaucoup de choses qu'il aurait voulu dire aujourd'hui qu'il n'a pas pu dire. Donc, premièrement, je vous remercie énormément pour toute votre attention. Les chiffres sont très bons pour le bulletin GP. On est très content de vous savoir avec nous. Et puis, vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes. YouTube. j'allais dire X, H, Twitter, par Facebook, par notre Messenger, si vous voulez écrire à Abdou Sal, c'est lui qui répond à tous vos messages. Donc, n'hésitez pas. Il est très, très actif également sur Twitter. Donc, vous pouvez chercher là, Abdou Sal. Là, ça va... il parle souvent de soccer. Il parle souvent de Formule 1. Donc, n'hésitez pas à dire un petit coucou. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre écoute aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous à chaque semaine, de nous écouter. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Nous, on est de retour dimanche pour l'après-course, également mardi prochain. Je serai à l'animation également de cet épisode, si tout va bien. Donc, merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite une très bonne semaine. Anna Maria était là avec nous, en fait, pour cet épisode.
Merci. À la prochaine.